France Inter.
L'invité au carré, aujourd'hui,
Hervé Kempf, journaliste, fondateur de Reporter, le média de l'écologie, essayiste.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
19 novembre 1998, l'échec de la conférence de Buenos Aires à produire des résultats concrets est sans doute très décevant. Il est cependant compréhensible au regard des enjeux suscités par le changement climatique. Il ne s'agit de rien de moins que de créer ex nihilo un marché mondial, de changer le concept de la croissance économique et d'organiser l'égalité entre les nations. On comprend que la communauté internationale s'y reprenne à deux fois, d'autant que l'effort demandé ne s'inscrit pas dans une continuité historique, mais suppose une rupture de tendances anciennes. Quelle forme le développement économique doit-il prendre ? Cette question interpelle tous les pays du monde. Pour les plus riches et particulièrement les États-Unis, il s'agit de savoir si la croissance matérielle peut continuer à l'infini. Dès lors que cette croissance matérielle est corrélée à des émissions de gaz à effet de serre, la réponse est non. L'autre question soulevée par le débat climatique, et sans doute la plus lourde, est celle de l'égalité entre les nations. Qu'est-ce qui légitime qu'un citoyen des États-Unis émette 20 tonnes de gaz carbonique par an, quand un Chinois en émet 2,6 et un Béninois 0,1. Dans un monde qui fait de la Déclaration des droits de l'homme sa référence commune, la réponse est limpide, rien. La crise écologique, sous la forme du changement climatique, n'interpelle pas seulement les structures économiques, elle oblige à imaginer par la globalité des effets qu'elle entraîne un monde qui serait sans puissance dominante, qu'elle soit américaine, européenne ou chinoise. On conçoit que de telles questions ne puissent être résolues au détour d'une conférence diplomatique. Il suffit déjà qu'elles parviennent à la conscience collective. Les délégués se sont fixés l'an 2000 pour réaliser du travail concret. Une jolie date, après tout, s'il s'agit vraiment d'imaginer une nouvelle Terre. Bonjour Hervé Kempf.
Bonjour Mathieu Vidard.
Vous êtes l'auteur de ce texte qui figure parmi les tout premiers articles que vous avez écrits pour Le Monde lorsque vous avez été engagé pour couvrir les questions environnementales en 1998. 27 ans plus tard, la rupture nécessaire dont vous parlez, vous, dans cet article, elle a été amorcée ou pas ?
Oui et non. Oui, il y a un rééquilibrage qui est en cours, États-Unis-Chine par exemple. Non, la remise en cause du système productiviste et de la croissance n'est toujours pas engagée.
On va en parler avec vous. Dans quelques heures, vous allez quitter, pour cause de retraite, la direction du média Reporter que vous avez créé. C'est donc une grande page qui se tourne. Et c'est l'occasion de revenir cet après-midi sur votre parcours de journaliste et d'auteur écolo. Un parcours qui débute le jour de votre naissance, le 6 juin 1957 à Amiens. Et voilà ce qu'on entendrait ce jour-là aux actualités françaises.
RTF. Depuis ce matin, un nouveau tarif douanier est entré en vigueur aux frontières du Maroc. 22,5% sur les tissus, 32% sur les vêtements, 25% sur les automobiles, au lieu du 10% uniforme qui frappait jusqu'à présent tous les produits importés au Maroc. Hier soir, le ministre de l'économie nationale a expliqué le sens de cette mesure qui doit protéger les industries locales.
Passons à l'actualité tout court. Voici d'abord une nouvelle aéronautique.
L'Associated Press annonce que M. Kenneth J. Friedlin, président de la Pacific Southwest Airlines, passera d'ici 3 mois une commande de 5 millions de dollars à Sud Aviation qui, on le sait, construit la Caravelle. On sait que le magnat de la finance Howard Hughes pilotera personnellement la Caravelle demain 7 juin afin de se prononcer avec certitude sur une commande éventuelle.
Aux îles Christmas, dans le Pacifique du Sud, l'Angleterre vient de faire exploser sa première bombe à hydrogène, se classant ainsi au rang des États-Unis et de l'URSS dans le domaine de la puissance atomique. La bombe anglaise a une puissance égale à 1 million de tonnes de TNT, et l'Angleterre se classe grande puissance nucléaire.
C'était Paris vous parle.
6 juin 1957, le journal de votre naissance, Hervé Kempf, concocté par Valérie Aïstaraï et Isabelle Fort-Rendu de l'INA. Qu'est-ce qu'il vous inspire, ce petit journal ?
Ah, on a changé d'époque.
Ouais.
C'est pas du tout le même ton, la même musique. C'est très étonnant.
Il y a quand même des sujets communs aujourd'hui. On parle des droits
Ils ont été choisis, voilà.
Eh oui, un petit
L'avion,
peu quand même.
La bombe, voilà, ces préoccupations étaient déjà là. Ce que ça inspire, c'est que On est maintenant dans une phase de développement de tendances qui avaient été amorcées, surtout après la Deuxième Guerre mondiale, qui sont en phase de développement. Et pour revenir à votre première interpellation, on est quand même dans un moment de rupture. Est-ce que même si M. Trump lance une guerre commerciale sur les droits de douane, même si le trafic aérien se développe encore à une allure tout à fait étonnante, même si le retour de la menace de la bombe nucléaire redevient présente,
ouais.
On sent en même temps que c'est un monde en bout de course. C'est-à-dire que je suis né à une époque qui était celle qu'on a appelée les Trente Glorieuses, qui était marquée par, certes, beaucoup de difficultés, mais malgré tout, une sorte d'enthousiasme, en tout cas de candeur, d'espoir dans l'avenir. On sait maintenant que ça n'est plus le cas et que l'avenir reste, pour l'instant, dominé par des puissances hostiles, mais que il n'est pas réellement durable, il n'est pas, c'est pas le bon avenir.
Ouais, mais
donc on est dans cette panne d'avenir en fait.
Quel est le, alors il y a une panne d'avenir, mais quel est le monde au fond qui est en bout de course, Hervé Kem, enfin, s'il faut le qualifier, le caractériser.
C'est malgré tout le monde de la croissance, c'est le monde de l'illimitation, c'est le monde aussi des faux semblants démocratiques, c'est-à-dire qu'on est à un moment où le capitalisme s'affirme dans toute sa brutalité et dans tout son refus fondamental de la démocratie. C'est aussi un monde où le conflit entre la Chine et les États-Unis ne peut se comprendre que si l'on comprend qu'il y a un enjeu d'appropriation des ressources pour maintenir un modèle productiviste à bout de course. C'est un monde aussi où il y a un rééquilibrage encore silencieux, mais beaucoup plus puissant qu'on ne le pense, des pays du Sud vers les pays du Nord, et même des peuples à l'égard des oligarchies. Donc, l'avenir, on sent que l'avenir, on est en train de le redessiner, même si on ne le définit pas encore.
Vous êtes donc né à Amiens en 1957, comme Emmanuel Macron et Brigitte Macron, d'ailleurs, hein, pour la ville d'Amiens.
Et peut-être François Ruffin, non ?
Non, il n'est pas né à Amiens.
Ah, il est pas né à,
il est né à Calais, parce que j'ai regardé, figurez-vous justement, et ben non,
bon, bah,
il est
désolé.
Né à Calais. Mais vous êtes plus de la génération de Brigitte, hein, quand même, Macron, qui est né en 1953. Est-ce que vous l'avez croisé à Amiens, à tout hasard, ou pas
non,
du tout ?
Non, parce que mes parents quittaient Amiens quand j'avais, je crois, 2 ans ou 3 ans.
Ouais.
Et en fait, je suis une sorte de Parisien pure souche.
Ouais.
Je fais partie de ces quelques personnes qui aiment beaucoup Paris, parce que Paris, c'est leur village, et malgré tous les défauts que cette village, j'y reste profondément attaché. C'est mon... Il n'y a pas un coin de rue qui n'évoque un souvenir, un attachement quelconque.
Quelle est l'origine de votre nom, Kempf, d'ailleurs ?
C'est alsacien.
Ouais.
C'est alsacien, c'est... Kempf est un peu le Dupont en Alsace, on en trouve souvent,
ouais.
On en trouve beaucoup, et voilà.
Quand on regarde l'étymologie, c'est le guerrier, le combattant.
Absolument.
C'est ça.
Et c'est un mot alsacien, pas allemand,
ouais.
C'est vraiment alsacien.
Quelqu'un au tempérament pugnace, c'est pas mal ça.
Oui.
Vous l'avez bien porté ce nom quand même, non ?
Oui, tout à fait.
Hein ?
J'aime pas qu'on me marche sur les pieds, je défends tenacement ma liberté, en revanche je ne veux pas dominer les autres.
Quel est votre environnement social et familial, Hervé Kempf, alors dans ce contexte parisien, alors, hein, puisqu'il faut
tout à fait
parler de Paris.
Alors mes parents étaient d'une bourgeoisie. Mon père était d'une famille d'industriels vosgiens qui avait été en train de faire faillite à la suite de la crise de 1929. Mon grand-père n'avait pas su s'adapter au nylon, donc on fait partie de ce textile vosgien qui s'est peu à peu effacé. Mon père était un homme très brillant, très intelligent. Très drôle, qui est parti plutôt lui aussi dans l'industrie et le commerce, alors que ça aurait été un professeur extraordinaire, ou peut-être un journaliste, je ne sais pas. Et toujours est-il qu'on était à la fois dans un milieu bourgeois, une culture bourgeoise, et en même temps, paradoxalement, comme mon père a réussi à être au chômage dans les années 60, ce qui témoignait quand même de son caractère assez original, à une époque de plein emploi généralisé, on a vécu... Pas dans la pauvreté, mais quand même dans la gêne, dans...
Pour les bourgeois fauchés, un petit peu.
On était des bourgeois, oui, mes parents ont eu quelques années très difficiles, surtout qu'on était 5 enfants, donc ils galéraient pas mal.
Ouais. Ouais. Qu'est-ce qui reste de bourgeois en vous, Hervé Kempf, vous qui êtes à la tête de ce média écolo aujourd'hui ?
Les codes, c'est toujours utile de connaître les codes de la domination quand on est un... Est-ce que je suis un révolté, en tout cas... Un opposant, un rebelle. Voilà, je suis peut-être pas un révolté, mais un rebelle. Je connais les codes de la bourgeoisie.
C'est important de les connaître.
C'est important de connaître tous les codes. Enfin, si j'étais ouvrier, je connaîtrais les codes de l'ouvrier, ça serait aussi important. Si j'étais, c'est important. Si, surtout quand on se situe en décalage, c'est très difficile d'avoir les codes d'un milieu auquel on adhère totalement parce qu'on est plongé dedans.
Ouais.
C'est pas que j'ai refusé ces codes, mais du fait même que du manque d'aisance de mes parents, dont peut-être ils ont pu souffrir. Et après, j'ai toujours pris des voies où j'adhérais pas du tout, et je n'adhère d'ailleurs toujours pas à cette classe sociale. Mais savoir comment elle fonctionne, savoir où ça appuie, connaître son langage est utile.
Vous avez consacré plusieurs ouvrages, on va en parler, à montrer en quoi les riches étaient responsables de la crise climatique que nous traversons. Il y a une BD qui est sortie d'ailleurs l'année dernière, Comment les riches ravagent la planète. Est-ce qu'il y a une démarche inconsciente à vouloir faire un peu la peau à ce milieu social ou pas chez vous?
Non, parce que je veux faire la peau de personne. Le concept de haine m'est à peu près étranger. Et quand je dis les riches, c'est pas seulement les ultra-riches. Je sais pas si on aura le temps d'en parler, mais si on fait une analyse sur qui sont les 10% les plus riches sur la planète, c'est-à-dire à peu près 800 millions de personnes qui ont un poids, un impact écologique extrêmement fort et une responsabilité extrêmement forte, 50% de la population française en fait partie à la louche, dont moi très largement. Pourtant, je ne me considère pas comme riche, même si, voilà, où je le suis d'ailleurs incontestablement, pas au niveau des ultra-riches.
Mais par rapport au salaire médian, en tout cas.
Voilà, c'est ça. Et de ce point de vue-là, c'est... Non, j'essaye, en fait, j'ai toujours été journaliste et une sorte de volonté d'élucidation, d'essayer de décortiquer dans la jungle apparemment impénétrable de l'actualité les fils, les chemins, les voies, les centres qui permettent d'en comprendre la géographie. Et de ce point de vue-là, par rapport à la question écologique, la question des rapports sociaux, des rapports de domination, des dominations et de distribution des richesses est un paramètre absolument fondamental.
On va en reparler tout à l'heure avec vous. Vous faites le lycée Henri IV, lycée public des plus prestigieux de France, donc à Paris. Donc là, on est dans les années 70, c'est en post-68 quand vous...
Oui,
quand
c'était
vous
des années délicieuses. C'était peut-être un petit peu moins élitiste que je crois que ça l'est devenu.
Il y avait plus de brassage,
si vous voulez dire. C'est étrange de dire ça, mais le quartier latin où mes parents vivaient était quand même socialement beaucoup plus mélangé dans mon immeuble. Il y avait un boulanger, il y avait des étudiants iraniens, il y avait des concierges à la retraite, enfin voilà. Et Henri IV, on était dans l'époque post-68, donc c'était vers les années 72-73. C'est une époque où les jeunes étaient beaucoup plus politiques, la politique imprégnait la vie, les gens s'engueulaient. Et moi, j'ai adoré cette époque. Pour être franc, on était encore des jeunes ados de 13, 14, 15 ans.
Et vous étiez déjà militant et politique ?
J'ai jamais été militant. Je suis totalement rétif au concept. Enfin, je suis consubstantiellement incapable d'être militant.
Même à l'adolescence.
Non, j'étais... on discutait avec les potes, alors il y avait toute la gamme des trotskistes, les lambertistes, les maoïstes, les communistes, les... J'en passe, j'avais quand même aussi deux ou trois amis de droite, parce que j'ai toujours... Ouais. Voilà. Mais, et moi, je... Et on discutait beaucoup, on a fait la plus longue grève de France au lycée contre la loi Debré. À la fin, on en avait un peu marre, ça durait plus d'un mois, mais comme il y avait un lycée de Marseille qui était au même point que nous, on a attendu, et on voulait faire la grève la plus longue, et comme le lycée de Marseille a finalement canné, trois jours après, on a arrêté la grève. On allait aussi beaucoup à des manifs. Je me rappelle être allé avec des casques de mobilettes, se tenir par les bras dans des manifestations. Donc c'est une époque qui était... l'adolescence est toujours un moment compliqué, mais il y avait quand même une énergie, un désir de politique, une passion de la discussion qui était formidable. Et moi, je me retrouvais plutôt dans l'écologie quand même, parce que j'avais du mal à adhérer aux idées marxistes. J'adhérais aux idées marxistes, mais je savais quand même que l'URSS et le communisme pouvaient virer au despotisme que c'était. Et donc, j'étais mal à l'aise parce que les valeurs de la liberté étaient cardinales pour moi, mais en même temps, je voulais être avec mes potes. Donc, je me suis assez bien retrouvé dans l'écologie qu'après, on a appelé l'écologie politique.
Il paraît que vous écoutez de la musique, du rock psychédélique, c'est vrai ça ?
Oh là là, oui, à une époque, oui, j'ai Pink Floyd, Klaus Schulze.
Et vous prenez les substances qui vont avec aussi ou pas ?
Pas mal de hashish à un moment, oui. Ouais. Même,
mais le timbre de LSD, par exemple,
est-ce que... Non, j'ai à un moment, je me retrouvais à... Comment dire ? Non, j'ai arrêté. Je méfiais de la cocaïne. À un moment, j'ai fréquenté beaucoup d'amis très chers qui étaient, hélas, beaucoup dans la drogue. J'en parlais avec eux, mais je me suis jamais été dans l'héroïne, dans le LSD, dans... J'aurais bien aimé prendre des champignons hallucinogènes, et peut-être qu'un jour je le ferai, j'ai rien contre ça. Mais non,
maintenant que vous êtes à la retraite, vous aurez le temps.
Oui, c'est plus l'occasion. Voilà,
de pouvoir explorer plein de choses. Dans cet environnement parisien, est-ce que la nature et l'écologie ont une place? Alors, vous avez parlé des Vosges un moment, c'est ça? Les montagnes vosgiennes, c'était votre horizon nature, au fait?
Oui, ma grand-mère était dans les Vosges, et donc on allait quasiment tous les étés, quand on était petit, dans sa maison, à Plombières-les-Bains, et on allait dans le parc qui est à côté de le parc public, qui est à côté, qui était quasiment une petite forêt, et je me rappelle beaucoup de souvenirs de jouer dans les cabanes, de jouer entre les arbres, et je sais pas, mais je pense qu'effectivement j'ai toujours eu un goût de la nature intime, enfin ça me... j'ai besoin d'être, et de là, voir des arbres.
Dans ces premières années là, quelles sont les influences intellectuelles sur le chemin justement de l'écologie politique qui peuvent déjà vous influencer dans ces premières années?
Ben, je pense quand même, mes parents étaient gaullistes, mais de gauche. Mon père était assez impliqué dans la politique, et comme c'était un vrai militant, lui, au sens où il a fait élire des gens, lui-même n'a jamais été élu. Il avait été résistant pendant la Deuxième Guerre mondiale, il avait dirigé un maquis, il n'a jamais eu la moindre Légion d'honneur, etc. Voilà, ça ne l'intéressait pas, il se battait pour ses idées. Et donc, ça, je pense que ça nous a imprégnés. Mes parents aussi parlaient beaucoup de politique, y compris avec des gens de gauche avec lesquels ils n'étaient pas d'accord. Il y avait cette idée de...
Mais dans le milieu écolo, au-delà même de la politique, est-ce qu'il y a des figures qui sont...
Ah oui, bah, je dis quand même, le gaulliste de gauche était intéressant, parce que, voilà. Et après, bah, Pierre Fournier, dans ces années-là, on lisait beaucoup Charlie Hebdo, qui était un tout autre journal que c'est devenu maintenant. C'était un vrai journal passionnant, vitupérant, intelligent, provocateur. Il y avait la signature de Pierre Fournier, qui était aussi un dessinateur hors pair, et qui était le premier à avoir senti à ce point-là l'importance de la question écologique, comment la relier à l'actualité, comment en faire un objet de lutte, de révolte, tout en informant extrêmement bien. J'ai adoré les premiers numéros de La Gueule Ouverte qu'il a créé. Malheureusement, il est mort très jeune, parce qu'il avait un problème de cœur, je crois. Voilà. Je me souviens aussi, je le mentionne, parce que Claude Aubert est toujours vivant, il fait toujours un travail magnifique. J'étais tombé sur un livre de Claude Aubert sur l'agriculture biologique. J'avais lu Jean Dorst avant que Nature meurt. Voilà, mais c'est surtout Pierre Fournier, puis après la presse qui m'a influencé.
On va écouter un petit sujet qui lui était consacré en 2010 sur France 3 dans le cadre d'une série sur l'écologie politique. Pierre Fournier, donc.
La mine est son outil, la mine du crayon pour dessiner, pour alerter. Il écrit et illustre des pages entières dans Harakiri, dans Charlie Hebdo, puis dans La Gueule Ouverte. Il est le prof d'écologie de toute une génération. À Paris, Daniel, sa femme, conserve l'œuvre décapante d'un visionnaire.
Les jeunes de 68, ils lisaient Charlie Hebdo. Donc Fournier va essayer de leur faire passer le message que la nature, c'est pas l'environnement, que la nature, c'est leur vie. C'était un pionnier. Moi, je considère que c'est un des pères de la révolution écologique.
Est-ce que vous l'avez rencontré, Pierre Fournier, ou pas? Est-ce qu'il aurait
pu non, faire... non, j'étais un gamin, non, non. Mais j'ai rencontré Daniel Fournier, j'avais fait un article.
Donc
sur
sa femme,
oui, qui est une personne d'une gentillesse formidable.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
L'accident de la centrale a probablement eu lieu samedi. Le cœur de l'un des réacteurs nucléaires a commencé à fondre. La chaleur a provoqué un incendie dans la centrale et la radioactivité continue de s'échapper et de s'échapper dans l'atmosphère. Les émanations radioactives portées par les vents ont atteint l'Europe du Nord. En réalité, pour les experts, les taux détectés ne sont pas dangereux pour l'homme.
La centrale de Tchernobyl, 29 avril 1986 sur FR3. Hervé Kem, vous qui êtes notre invité au carré, pourquoi est-ce qu'on a choisi cet extrait? Parce qu'il semblerait que cet événement ait joué un rôle aussi important dans votre parcours de journaliste.
Je confirme.
Ouais.
Donc on a parlé de l'époque des années 70 où j'avais été beaucoup investi, au moins intellectuellement, dans l'écologie. Puis après, la vie a évolué, j'ai un peu oublié tout ça. Et je me retrouve jeune homme, père de famille, au boulot de journaliste à Sciences et Vie Micro, donc dans un univers totalement différent. Et puis en rentrant d'un reportage dans le bus, j'entends à la radio un nuage radioactif sur la Suède a été détecté. Et c'était les premiers symptômes de Tchernobyl. Ouais. Et dans les années qui ont suivi, dans les jours, pardon, qui ont suivi, j'étais extrêmement attentif à ça. D'autant plus j'avais des enfants en bas âge, donc on était inquiets. Et puis ça a fait remonter tout ce que. Voilà, tout. Et je me suis dit, mais attends, l'écologie, il y a 10 ans, ça te passionnait, et puis tu as oublié. En fait, c'est toujours présent, c'est là. Et à partir de ce moment-là, je me suis dit, mais je commençais à avoir fait un peu le tour de à Sciences et Vie Micro, même si c'était passionnant. C'était les débuts de la micro-informatique. Ouais. Donc pendant quelques années, j'ai trouvé ça très passionnant. Mais ça,
donc, il y a eu le choc quand même de cet événement.
Et le choc de Tchernobyl me dit, ok, tu vas changer. Et j'ai commencé à regarder, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien sur l'environnement. Il n'y avait pas un journal, il y avait
pourtant une ou deux feuilles. Pourtant, abondamment traité quand même. Dans...
Tchernobyl, oui, mais les questions d'environnement en général, je ne suis pas resté à Tchernobyl, ça m'a fait penser à tout le reste. On était en 86, et je me suis dit, mais il faut monter un journal sur l'environnement. Donc, avec des amis, on l'a fait avec les moyens du bord, et ça a été le premier reporter
sur 89.
Papier. Version 89.
Sur papier, donc.
Sur papier, à l'époque, ouais. Internet n'existait pas. On a tenu 10 numéros. On vendait l'idée, c'était de faire un magazine de l'environnement attrayant, journalistique, contradictoire, bien fait autant que possible.
Et pourquoi ça s'est cassé la figure ?
Parce qu'il faut beaucoup d'argent. On avait même avec 26 000 ventes au numéro et on a fini à 4 600 abonnés payants. Mais pour du papier, il vous faut une grosse trésorerie.
Et ça, vous ne l'aviez pas anticipé à l'époque ?
Bah, on n'avait pas anticipé, on avait les moyens pour le lancer, mais j'avais mal fait. On savait qu'on manquerait d'argent, on n'a pas été voir des investisseurs, etc. Et donc, on a fait faillite, malgré un vrai succès.
Ouais, donc, il faut retourner à faire des piges, c'est ça ?
Du boulot. Quand vous faites faillite, c'est pas le moment le plus agréable dans la vie. Donc, vous en prenez plein la figure. Et puis, au bout d'un moment, il y a des copains qui disent « Allez, Hervé, tu sors de ta mouise et tu te remets au boulot. » Donc, voilà. Et puis, j'ai recommencé à la pige. Et après, toujours quand même sur des thèmes liés à l'écologie, soit par l'entrée de la science, soit par l'entrée de l'économie. J'ai plus lâché jamais après, parce que je trouvais que c'était journalistiquement un domaine passionnant et que, sur le fond, c'était un sujet capital.
Et donc, en 98, vous arrivez au Monde. À cette époque, quelle est la place de l'écologie, d'ailleurs, dans ce grand quotidien français ?
Elle est relativement importante, c'est-à-dire que Le Monde a toujours prêté attention à ça par des bons journalistes comme Marc-Ambroise Rendu dans les années 60-70, par Roger Kans ensuite. Il y avait Sylvia Zappi quand j'y suis arrivé, mais voilà. Et à l'époque, Edoui Plenel et Jean-Paul Besset, qui était le rédacteur en chef adjoint, sentaient qu'il y avait un besoin de se renforcer sur ce domaine. Il n'y avait pas des masses de journalistes compétents dans le domaine, donc ils m'ont appelé. Et donc, voilà, j'ai contribué à pousser la question environnementale au Monde. Je suis arrivé, à vrai dire, c'était un délice.
Donc vous aviez quoi, carte blanche, en gros, pour traiter les sujets que vous vouliez
Dès lors que je sortais de la bonne info et que ça tenait la route...
Sortir la bonne info, ça veut dire quoi, d'ailleurs, en termes journalistiques ?
C'est-à-dire sentir la tendance, sentir... voilà, moi, par exemple, à l'époque, c'était... À Buenos Aires, la première COP, la suivre attentivement et défendre le sujet du climat, alors que c'était pas tout à fait évident encore à cette époque, sentir très rapidement que les OGM étaient une bagarre et sortir des scoops ou des infos qui n'étaient pas là-dessus. C'est sentir un peu les sujets qui montent, mais ça c'est le travail de journaliste, quel que soit le domaine. Mais j'étais comme un gamin dans un magasin de confiserie, c'est-à-dire qu'on m'avait donné les clés. Et, ok, tu prends tout ce que tu veux, l'essentiel, fais des bons articles qui soient... Et moi, je m'en donnais à cœur joie, sans trop voir toutes les histoires un peu compliquées à cette époque de pouvoir au sein du Monde, parce qu'il y avait beaucoup de querelles de chapelle. Moi, je m'en fichais un petit peu. Je voulais parler d'environnement et on me laissait le faire. Et c'est quand même... voilà.
En 2000, le projet d'aéroport du Grand Ouest au sud du bourg de Notre-Dame-des-Landes a été réactivé sous le gouvernement de Lionel Jospin. C'est le début d'une lutte au long cours que vous allez suivre évidemment pour Le Monde. Extrait de France 3 en mai 2013.
Ils ont réussi leur pari, une chaîne humaine de 25 km de long pour dire non.
Il y a un train d'arrêter à la gare d'Apocalypse.
Des applaudissements et des rires qui ne doivent pas masquer la détermination des militants. Entre 12 000 selon la police et 40 000 militants selon les organisateurs l'ont promis, ils ne relâcheront pas la pression tant que le gouvernement n'aura pas retiré définitivement son projet d'aéroport.
Novembre 2012, Hervé Kempf, vous rectifiez la date de cet extrait. Vous avez beaucoup suivi, beaucoup écrit sur Notre-Dame-des-Landes pour Le Monde à l'époque.
Oui, à partir de 2008, si j'ai bonne mémoire, tout simplement parce qu'un jour je vais faire une conférence à Nantes et les gens me disent « Dis donc, il y a une histoire d'aéroport à 40 km, il faudrait vraiment que tu puisses venir. » Bon, j'avais l'après-midi, je vais voir, je vais chez un paysan qui me raconte qu'Arthur Tapp, ce qui est en jeu, et je me rends compte qu'il y a un sujet. Donc je commence à en parler, je l'ai suivi très attentivement depuis cette époque.
Et c'est le sujet qui a été le sujet de la discorde aussi avec Le Monde. C'est le sujet qui vous a fait aussi partir du quotidien.
Oui, oui. En gros, j'ai été censuré là-dessus parce que qu'est-ce qui se passe en... Alors j'étais quand même...
Sur quoi vous avez été censuré en fait? Parce que vous avez beaucoup écrit de papier quand même à l'époque, quand on fait le compte.
Oui, oui, oui. Comment dire ce que depuis, moi, je fais la paix avec Le Monde et on va le dire simplement. Le Monde avait été racheté en 2010 par Monsieur Pierre Berger, Xavier Niel et Mathieu Pigas, donc avait perdu sa liberté. Certains de ses propriétaires étaient assez interventionnistes. Quand François Hollande devient président de la République avec Jean-Marc Ayrault, ex-maire de Nantes et Premier ministre, très attaché à l'aéroport, le premier sujet qui vient à l'automne avec la sidérurgie dans l'Est, c'est l'invasion policière de Notre-Dame-des-Landes par le Premier ministre socialiste. Et peut-être qu'il ne fallait pas trop, dans le journal Le Monde appartenant à ces personnes...
Vous avez senti quoi, des crispations
sur ces sujets? Ah, mais c'est pas que j'ai été senti. Je dis, mais attendez, en conférence de rédaction, plusieurs fois, je dis, il faut aller voir, il faut aller raconter. On m'empêchait de le faire, alors que je suivais très attentivement l'affaire depuis 3, 4, 5 ans, c'était le sujet environnemental du moment, on était au service Planète, et au bout d'un moment, je vais voir le directeur de la rédaction, et je dis, mais c'est pas possible, il faut y aller. Non, tu n'iras pas, je dis, si, et voilà, on est rentré en conflit, et ça s'est fini, ça a été assez pénible, et puis voilà, c'est le passé, et j'ai fini par quitter Le Monde 6 mois après.
Donc vous claquez la porte en septembre 2013, vous écrivez « Adieu Le Monde, vive reporter », puisque là, hop, reporter revient, vous dites, tiens, il y a peut-être ce bébé là qui était un peu en gestation que je pourrais réanimer, et donc là dans une version web, vous y pensez dès le départ, c'était pas impossible de refaire une version papier sur reporter à ce moment-là?
À ce moment-là, non, parce que d'abord le web, c'était encore... j'avais recréé le site web Reporter en 2007 pour accompagner le livre « Comment les riches détruisent la planète ». Et je découvrais l'écriture Internet, qui était quand même encore en plein développement à ce moment. C'était un instrument magique. Et ça ne coûtait pas cher, alors que le papier, il fallait beaucoup d'investissements. Mmh. Là, quand je lance avec des amis de l'association le reporter...
Vous faites une étude de marché ce coup-ci ou pas?
Non, non.
Même pas?
Non, non, c'était... On veut me censurer, mais c'est inimaginable. Et
après, il faut pouvoir pérenniser quand même l'idée.
J'avais mes indemnités chômage et de toute façon, personne, c'est dingue, hein, je sors du Monde, j'étais quand même un journaliste assez réputé, personne ne m'a proposé de boulot. Enfin, j'aurais été au chômage. Donc, je fais, ok, je vais faire de l'information avec les copains sur... Et après, il y a un cercle vertueux qui s'est enclenché.
Donc, a posteriori, finalement, c'est une bonne chose ce qui vous est arrivé avec Le Monde ou pas?
Je vais vous dire un truc bizarre. Si par hasard, enfin je sais pas si c'est bizarre ou pas, mais si Reporter, on n'avait pas fait faillite en 1989, j'aurais été beaucoup plus content de développer Reporter dans les années 90 que ensuite d'aller au Monde, même si j'ai eu beaucoup d'affection pour ce journal. Et voilà. Et on parlait de Pierre Fournier tout à l'heure. Si Pierre Fournier n'avait pas eu cet accident grave, enfin, il a eu une attaque de cœur, je ne sais plus trop, s'il n'était pas mort au bout du 4e numéro de La Gueule Ouverte, quelque chose se serait passé de différent dans le mouvement écologique français et dans la compréhension par la société de l'enjeu écologique. Et donc,
mais est-ce que la société était prête justement à ce moment-là ou pas?
Elle est prête, elle est toujours prête. Elle était prête en 89, elle était prête en 72, elle était prête en 2013, et on le voit, puisque maintenant, on s'est développé, que dans tous les domaines, il y a l'émission La Terre au Carré, qui est extrêmement importante, et je le dis pas parce que je suis à votre micro, mais parce que je le pense, et que Reporter, on a défendu La Terre au Carré l'année dernière. Il y a plein de médias indépendants ou pas, qui se créent autour de l'environnement. Il y a des journalistes dans les différentes rédactions, y compris au Monde, d'ailleurs. La Croix fait un bon boulot, sur l'environnement. Enfin, voilà, c'est puissant et c'est important qu'il y ait des journalistes qui se bagarrent là-dessus. Et c'est important qu'il y ait, je dirais pas un vaisseau amiral, ça serait prétentieux, mais qu'il y ait un média fort qui maintienne la flamme et qui dise sans arrêt, il faut parler d'écologie dans le débat public. C'est un enjeu démocratique, c'est un enjeu d'avenir, c'est un enjeu pour la justice sociale, c'est un enjeu pour la bonne santé de notre société et de la planète.
Vous dites, Hervé Kemps, j'ai jamais été militant. C'est toujours la question qu'on pose d'ailleurs aux journalistes, nous y compris d'ailleurs, la frontière entre l'engagement et le militantisme. Sur la question du nucléaire, par exemple, est-ce qu'il est possible de faire un journalisme neutre, non militant, ou est-ce que forcément dans le traitement, en ce qui vous concerne par exemple, on connaît vos positions anti-nucléaires, est-ce que forcément à un moment, il y a quand même une plume particulière qui s'exprime et qu'on n'est pas neutre, parce que c'est impossible de l'être au fond sur ce type de sujet.
Il n'y a pas une information que j'ai écrite sur l'énergie nucléaire depuis... Le bizarre, c'est que mon premier grand papier, c'est en 1975, avec Marie-France Toinet dans la revue Études, qui est une chercheuse, Marie-France Toinet. Il n'y a pas une information dans un des articles sur le nucléaire que j'ai pu écrire qui soit fausse. Voilà. La question, c'est pas d'être pour ou contre. La question, c'est est-ce qu'on va avoir une politique énergétique dans ce pays qui prenne en considération de manière sérieuse les avantages et les inconvénients de tel ou tel choix. Et voilà. Après, moi, je suis devenu... Maintenant, je me reconnais comme anti-nucléaire pour la raison que voici. C'est que je me suis rendu compte qu'il y avait un problème en France, y compris d'accidents nucléaires possibles, assez récemment, bizarrement. Il y a, je ne saurais pas dire, 15 ou 20 ans. Pas tout de suite à Tchernobyl, mais il y a 15 ou 20 ans, ayant beaucoup travaillé sur le nucléaire comme sur d'autres sujets, je me suis dit, mais c'est dingue, parce qu'il y a la possibilité d'un accident nucléaire dans notre pays ou dans un pays développé revient, et ça aurait des conséquences absolument dramatiques.
Mais ceux qui promeuvent le nucléaire, par exemple, est-ce qu'ils ont leur place dans les lignes de reporters, par exemple, ou pas? Est-ce que c'est des gens auxquels vous laissez des espaces d'expression?
Comme il y a très peu de journaux qui ont une position critique à l'égard du nucléaire et que la majorité de la presse est baignée de pro-nucléaire, nous on est quand même un petit journal et donc on donne la place à des points de vue critiques sur le nucléaire. Dès lors que l'information, elle est sérieuse. Et je suis désolé, mais notre information est sérieuse. En revanche, on fait toujours un travail contradictoire. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un de nos articles où on n'appelle pas EDF, la RSN, Orano, etc. Et d'ailleurs maintenant, comme les gens de l'industrie du nucléaire savent qu'on est sérieux et qu'on leur donnera la parole s'ils nous disent quelque chose, ils nous répondent.
France Inter. La Terre au carré.
À Terre, le magazine de l'environnement, on explore ce matin les relations entre écologie et régime politique avec Hervé Kempf, journaliste au Monde et écrivain.
Nous sommes dans un état tellement dégradé de la démocratie qui peut nous permettre de, en tout cas, poser la question de savoir si nous ne sommes pas passés dans ce régime oligarchique où un petit nombre de personnes décident en quelque sorte du sort de tous sur les questions les plus fondamentales.
Et ça, c'était en 2007, votre voix, Hervé Kempf, sur France Culture, dans l'émission Terre à Terre de Ruth Stegassi. Vous qui êtes le fondateur du site Reporter et qui est donc allé tirer votre révérence dans quelques jours autour de ce média. En 2007, donc, vous faisiez la promotion de ce livre, Comment les riches détruisent la planète. Et l'année dernière, vous avez publié une version BD intitulée Comment les riches ravagent la planète. Est-ce que les choses ont beaucoup évolué en 18 ans sur ce front ou pas? Ou qu'est-ce qui a changé?
Ce qui a changé depuis 18 ans, c'est que la catastrophe écologique s'est accentuée au point que maintenant, si je dis catastrophe écologique, les auditrices et les auditeurs disent « ouais ». Ce qui s'est accentué aussi, aggravé, c'est précisément l'emprise de l'oligarchie, la radicalisation du capitalisme sur la démocratie, entre autres.
Dans tous les pays du monde ou pas? Est-ce que, par exemple, la France reste une démocratie ou une oligarchie aujourd'hui pour vous, c'est-à-dire un système politique dominé par quelques catégories restreintes d'individus possédant le pouvoir économique?
C'est un système oligarchique dans lequel il y a encore une culture démocratique et une capacité de mobilisation qui fait que nous pouvons faire reculer l'oligarchie. Mais ça va être très difficile parce que maintenant, les capitalistes se sont alliés, ont fait le choix délibéré d'aller avec l'extrême droite. Donc là, on est dans une situation très périlleuse, mais on est plutôt un système oligarchique avec quand même une culture démocratique forte. Mais pour dire aussi les bonnes choses. Parce qu'autrement, on arrête l'émission et on va tous dans la forêt respirer ou regarder les étoiles en buvant de la bière ou en faisant je sais pas quoi. Mais non, ce qui s'est passé, c'est que la conscience collective de ce que je viens de dire est quand même beaucoup plus forte. La deuxième chose, c'est qu'il y a partout des alternatives, des façons de vivre autrement. Par exemple, au début de Reporter, on commençait à raconter des alternatives, on avait presque du mal à en trouver. Maintenant, c'est partout. C'est-à-dire qu'il y a... Et les médias dominants ou dominés par le capital ne le montrent pas, mais en fait, il y a une vigueur, une énergie, une volonté dans la société qui est beaucoup plus présente qu'on ne le croit. Et il y a aussi, on a employé tout à l'heure les mots de rébellion, de révolte, ça monte partout. Ouais. À travers le monde, en ce moment même, il y a en Turquie, en Serbie, des bagarres très fortes. En France, on a eu les gilets jaunes et ça va revenir. Voilà, ça sourd.
Donc vous dites
la révolte sourde parce que les gens se rendent bien compte que l'avenir que leur propose, j'appelle ça le capitalisme. Hein, désolé d'employer ce mot-là si par hasard ça gêne certains des auditrices et des auditeurs, mais si vous préférez, je peux dire le système. Je m'en fiche. Excusez-moi.
Vous avez le droit de vous foutre aussi.
Mais il y a, voilà, les gens se rendent compte que le système n'est plus fait pour eux et donc se prépare à le bousculer.
Sauf que, est-ce qu'il a le poids, justement, pour lutter? Cette conscience collective, ces luttes un peu partout dans le monde, est-ce qu'elles ont réellement aujourd'hui le poids de lutter contre le rouleau compresseur du capitalisme, des ultra-riches? On voit ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Est-ce que, franchement, cette force-là, elle est en capacité de lutter contre ces forces?
Écoutez, je vais dire oui. Parce qu'autrement, ce qu'on est en train de dire n'aurait pas de sens.
Quand on voit la vitesse à laquelle les choses sont détricotées là aujourd'hui,
oui,
sur le front de l'écologie.
On est un choix historique, on est un moment de choix historique et notre génération et les générations plus jeunes vivent un moment délicat mais qui est très difficile, mais qui est en même temps très impressionnant et grave. Soit on laisse les forces, les messieurs Zuckerberg, Trump, Musk, Retailleau, Arnaud et compagnie, Le Pen, maintenir leur vision et nous entraîner vers un monde policier, un monde dur, un monde chaotique, où le changement climatique et la dégradation écologique prendra encore plus d'ampleur et donc de souffrance, ou soit nous parvenons, les peuples parviennent, à renverser ça.
Et vous y croyez encore? Vous y croyez?
Bien sûr, sinon on ne ferait pas Reporter, sinon je ne serais pas là. Et même vous, vous y croyez, sinon vous n'inviteriez pas des gens comme moi. Bien sûr que. Et des millions de gens y croient vraiment. Et le font, surtout.
Il y avait un article justement dans Reporter en septembre dernier, dans les médias d'extrême droite, une croisade anti-écolo. C'est Léa Gage qui avait signé cet article. En septembre, l'ARCOM infligeait pour la première fois une amende à une chaîne de télévision, CNews, pour des propos climato-sceptiques tenus à l'antenne le 10 juillet dernier. On voit justement que ces médias aujourd'hui se type de propos qui remettent en cause l'origine anthropique du changement climatique, ils ont de plus en plus de poids, ils trouvent un écho de plus en plus fort.
Parce que je crains ou je pense qu'il y a un moment de confusion pour beaucoup de personnes qui est difficile. Et c'est difficile d'entendre ce qu'on écoute, ce qu'on dit tous les jours à un reporter ou à la Terre au Carré ou à d'autres personnes qui parlent d'écologie. Nous disons ce qui est en train de se passer est grave et ça va, si on continue, plus mal encore se passer. Alors que parfois, dans la vie quotidienne, d'une part, il y a les gens qui galèrent simplement pour payer leurs factures à la fin du mois ou faire face à leur loyer ou à leur électricité. Et d'autres qui disent, mais écoutez, malgré tout, là, aujourd'hui, c'est le printemps, je vis correctement, tout ce que vous me racontez. On a tendance à évacuer tout ça, à être à la fois dans le déni et puis cette confusion qui est entraînée par ceux que vous avez cités, par ces gens qui sont extrêmement puissants et qui répandent des fausses idées, et puis que maintenant, le rapport à la vérité a tellement changé, c'est-à-dire que vous pouvez avoir le président de la première puissance mondiale, à savoir M. Trump, qui raconte absolument n'importe quoi sur à peu près tous les sujets. Et donc, si même les personnes autorisées mentent, où se trouve la vérité? Donc on est dans cette confusion qui laisse beaucoup de nos concitoyennes et nos concitoyens dans un état un peu fataliste, un peu passif. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Donc ils se ramènent à leur propre vie, et ils ne croient pas qu'on peut aller vers cet avenir autre.
On va écouter Elisabeth Lévy, la directrice de la rédaction de Causeur sur RMC, deux propos au sujet de l'écologie. Vous faites déjà la grimace.
Avec la crise énergétique, le changement climatique s'est invité dans tous les esprits et surtout dans tous les budgets, même si sans doute l'argent n'est pas le seul moteur, hein, parce que le climat c'est un peu aussi la nouvelle religion planétaire. On est chez les cinglés, on est sous la pression de lobby écolo qui raconte n'importe quoi.
Lorsque Valeurs Actuelles titre sur le monde de fou que les écolos nous imposent, sur les écolos sectaires qui seraient anti-viande, anti-joie de vivre, anti-tradition, anti-tout, que l'écologisme est un gauchisme, qu'il a la couleur du totalitarisme, l'esprit du totalitarisme, ou lorsqu'on entend les propos d'Elisabeth Lévy qui avait également dit que les écolos étaient des peines à jouir, qu'est-ce que vous avez envie de leur répondre, Hervé Kempf?
Je sais pas comment dire. Peut-être tout simplement... Là, par exemple, on parlait des lieux alternatifs, d'une certaine manière, reporter en est, mais c'est pas pour parler de reporter, c'est pour donner un exemple. Mmh. Quand vous avez un groupe de gens qui s'entendent bien, qui ont un boulot qui ont du sens, qui bossent ensemble dans une certaine direction, et qui en même temps s'entendent bien, bah, y a de la joie, il y a de la bienveillance, il y a du plaisir à ce qu'on fait. Et voilà. Et ce que je voudrais dire à Madame Lévy, c'est... Bon, pas de problème. Bah, un jour, venez déjeuner chez nous et puis on discutera et vous verrez qu'on n'est pas si peine à jouir que ça et que tout va bien. Et puis surtout, il y a un mot que j'aime bien de Alain Deneau, un intellectuel québécois. Il faut être lucide et gai dans la période actuelle. Donc il faut être lucide, c'est-à-dire qu'il faut être capable d'assumer ce que nous décrivons et qu'il n'y ait pas seulement le changement climatique, mais qu'aussi l'érosion hallucinante de la biodiversité ou la pollution généralisée des écosystèmes. Donc il faut le raconter ça et savoir que la période à venir va être difficile. Et en même temps, il faut être gai. Il faut être gai parce que on peut aller vers un monde axé sur la coopération, sur la solidarité, sur les soins les uns aux autres.
On peut être gai quand on est plutôt bien ancré dans sa vie, quand on a un peu de moyens. Enfin, il y a plein de gens qui vivent la galère au quotidien. Vous leur servez ce genre de discours, ils vont vous rire au nez, non?
D'abord, ils seront contents si on discute avec eux, tout simplement, parce que très souvent, ils sont seuls. Ce qui se passe, c'est que le néolibéralisme a créé l'individualisme. Pour eux, pour les capitalistes, pour les dominants, c'était le mot de Margaret Thatcher. Il n'y a pas de société. C'est un mot très important, parce que pour eux, il faut que nous soyons des individus coupés les uns les autres. Et ce n'est pas une question de richesse, c'est une question, est-ce que vous êtes dans un collectif? Est-ce que vous êtes avec des gens avec qui vous entendez, avec qui vous partagez des choses, avec qui vous partagez la peine et avec qui vous partagez la joie, avec qui vous œuvrez ensemble pour vous sortir de la mouise? Et quand on est dans ce sentiment de... Mais qui peut être des amis, qui peut être la famille, qui peut être un groupe de travail, qui peut être une communauté de vie, qui peut être une alternative, qui peut être un collectif de lutte, eh ben vous êtes peut-être pas toujours dans la joie, mais vous êtes dans quelque chose qui vous entraîne. Ce qui fait mal à l'heure actuelle à la société, c'est la solitude des gens. Évidemment, la plus grande solitude, et j'allais dire c'est construit pour les populations souvent les plus précaires, quand on voit des femmes mères célibataires qui ont des boulots, elles doivent aller à 6h du matin, puis arrêter à 10h et reprendre le 17h jusqu'à à minuit, et comment elles font avec leurs gamins, c'est une vie absolument impossible, et si elles sont seules, elles sont totalement paumées, et malheureusement, il y a des millions de gens qui sont dans cette situation, et il y a aussi des riches, des bourgeois qui sont très seuls, on parlait tout à l'heure de drogue, voilà, il y a un recours à la drogue, ou encore, j'ai entendu il y a deux jours à France Inter, la France est le consommateur maximal de benzodiazépines, ou je ne sais quel anxiolytique, eh bien, soyons ensemble, faisons de la joie, faisons du collectif, et la société ira mieux, et il y aura pas besoin d'autant de matière et de richesse qu'il y en a à l'heure actuelle.
Est-ce que vous avez réussi à le faire avec ces décennies de journalisme écologique,
par exemple, vous voyez,
parce que c'est l'heure du bilan, là. Vous partez à la retraite dans quelques jours.
Je suis pas mort non plus. Donc,
non, mais quand même, écoutez, vous quittez reporter.
Hein. Bah, ouais, je suis ravi parce que c'est une équipe de jeunes journalistes. Et là, je passe la main à Amélie Mouget, qui est une jeune femme brillante, pleine d'énergie, intelligente. Et on a créé un collectif où... On essaye d'être beaucoup dans l'horizontalité, l'intelligence collective. Il y a des décisions qui se prennent et parfois de la verticalité, mais on essaye quand même de jouer avec ça. Je vois tout ce qu'on a fait depuis 12 ans et surtout ce qu'on observe, c'est-à-dire ce que je vous disais tout à l'heure, les collectifs de lutte, les communautés, les
alternatives. Mais en même temps, on voit le recul sur le front de l'écologie, en même temps, en 2025, alors qu'on était tous pleins d'espoir, il y a encore 5 ans.
Bah, on est en bataille. Mais il y a 5 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu 2018, le mouvement climat.
Il y a eu plein de choses, les marches pour le climat, il y a eu Greta Thunberg,
on est d'accord. Formidable. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien, j'allais dire deux choses à la fois. Un, on n'a pas réussi à faire l'alliance avec les mouvements populaires. Par exemple, le mouvement des Gilets jaunes et le mouvement climat, il n'a pas réussi à bien faire alliance. Ça nous a manqué. Mmh. Et ça, cette leçon, les Gilets jaunes ou les futurs Gilets jaunes, comme les écolos, l'ont entendu. Et le prochain coup, si j'ose dire, on sort à faire alliance. Et la deuxième chose, c'est que le Covid est arrivé. Le Covid est arrivé et a été un coup de bambou sur tout le monde avec le confinement.
Là, on le voit, la gauche, elle ne fait pas alliance, justement.
Eh bien, c'est un problème, effectivement. Et là, on peut dire, l'actualité d'aujourd'hui, c'est effectivement le Parti Socialiste qui veut créer un Parti Socialiste qui ne ferait pas l'alliance avec la gauche parce qu'il refuserait la France Insoumise. Eh bien, je dis là que c'est une erreur grave du Parti Socialiste et qui nous conduira au Rassemblement National. Donc, il faut absolument que la gauche et les écologistes s'entendent.
Hervé Kempf, vous allez tourner la page, hein, la page virtuelle et réelle de reporter. Qu'est-ce que vous ressentez là, quelques heures du passage de témoin ?
Eh ben, écoutez, la joie, parce que ça fait 3 ans que je réfléchis à ça avec mes camarades, avec les membres du conseil d'administration de l'association, avec les journalistes. De la joie, parce que reporter va bien, il y a une équipe jeune et il y a quelqu'un de plus jeune que moi qui arrive avec plein d'énergie. Et puis, je serai content de travailler un petit peu moins.
Vous restez avec nous, Hervé Kempf. Merci en tout cas d'avoir été notre invité au carré. On va écouter le répondeur et je vais vous faire réagir justement sur certains de ces messages.
Julia Palazzine, Montpellier. Je viens d'écouter les directs d'aujourd'hui. Je suis assez déçue du discours tenu par la sociologue. Très contradictoire, je trouve. Notamment quand on dit que les gens essaient de mettre en acte leurs principes. Je trouve ça admirable. Et ça ne doit pas être une critique pour ceux qui essaient de sauver le monde en mangeant local et bio. Bonne journée.
Bonjour à tous. Alors pour faire suite au message, non, on ne va pas se mettre à manger de l'herbe ni des cailloux d'ailleurs. Bah oui, quoi, quitte à tomber dans les préjugés et autres prétextes fallacieux, autant se vautrer dedans. Bref, donc oui, il y a d'autres choses à manger à part l'herbe, à savoir les légumineuses, les légumes, les fruits et autres céréales. Vous savez, celles que l'on donne aux animaux pour ensuite les tuer plutôt que de les donner aux millions d'humains victimes de la faim dans le monde ou même chez nous quand on voit le nombre de bénéficiaires des Restos du Cœur. Quoi qu'il en soit, j'invite donc le monsieur qui nous invitait à manger de l'herbe et les autres d'ailleurs à se reconvertir dans la culture de ces très nombreuses alternatives plutôt que de s'obstiner dans l'élevage. Car au risque d'en décevoir certains, je précise que le fameux couteau bio qui ne fait pas bobo, il n'existe pas puisque la victime au bout du couteau ou de la canne à pêche, etc., meurt quoi qu'il en soit. Et puisque la pub pour le jambon est quotidienne, j'en profite pour ajouter que tout est bon dans le cornichon, le poivron et le potiron. Bonne journée à tous.
Oui, c'est Jérôme de Lyon, consommateur engagé. Mais engagé dans quel sens ? Privilégier le bio, le local, le bio avant le local avant le bio. Personnellement, moi, je cherche surtout à limiter les emballages, et en particulier les emballages en plastique. Le plastique, faut vraiment arrêter, il y en a partout. Hein, donc, on va au marché, on prend ses sacs en papier ou dans les boutiques tout en vrac, on prend ses boîtes. Et on peut même éviter, quand on va à la boulangerie, de prendre, vous savez, le petit papier là pour emballer la baguette qui sert strictement à rien. En matière de déchets, il n'y a pas de petits gestes.
Bonjour, Marjorie des Yvelines. Alors, j'ai bien rigolé en vous écoutant, une fois n'est pas coutume, parce que vous avez annoncé avoir fait un petit sondage sur Instagram pour savoir si vous deviez quitter les réseaux sociaux. Et sans surprise... Eh bien, les internautes ont voté pour que vous restiez sur Instagram. Moi, je veux bien, mais est-ce que vous avez jamais entendu parler de quelqu'un qui, ayant lu une story, s'est frappé le front, a laissé tomber son comportement toxique, ses achats en ligne, ses week-ends à l'autre bout du monde, pour un comportement vertueux ? Moi, non. Je pense par contre qu'en restant sur les réseaux sociaux, vous servez de caution, on va dire, morale à Mark Zuckerberg et aux autres, qui peuvent dire, regardez, on est utile puisqu'on publie des contenus écologiques et qui promeuvent l'écologie. Donc, je pense que éthiquement parlant, il n'y a vraiment pas à hésiter. Il faut quitter les réseaux sociaux. Bonne journée à tous.
Salut Mathieu, c'est de Camille, c'est toute l'équipe. Par rapport à l'histoire des réseaux, c'est Mathieu, pardon, bien sûr. Par rapport à l'histoire des réseaux sociaux, alors moi je suis pas sur TikTok et tous ces trucs-là, mais j'ai un vieux compte, j'ai un compte depuis longtemps sur Facebook, et autant j'ai jamais partagé de trucs personnels, mes photos, de mes vacances ou je ne sais quoi, mais par contre je trouve que c'est un super outil culturel. J'ai découvert plein de groupes de musique, plein d'expositions, plein d'événements proches de chez moi ou un peu moins proches, que j'aurais pas forcément découvert sans ce réseau social. Donc, moi, je dirais, si être au carré peut rester dessus et être découvert par des personnes pas forcément sensibilisées à la base, eh bien, ce serait parfait. À bientôt et merci pour tout. Ciao.
Et merci pour vos messages, Hervé Kempf. Je voulais vous faire réagir sur les messages concernant les réseaux sociaux. C'est une vraie réflexion pour nous aussi à La Terre au Carré. Reporter, vous êtes aussi, comme plein de médias, sur les réseaux sociaux. Comment on répond justement à ce qui peut sembler très dissonant pour plein de gens, avec l'empreinte carbone aussi, tout simplement, du numérique? Et l'éthique par rapport à ceux qui gouvernent et dirigent ces entreprises,
hein. Je dirais surtout ça, l'empreinte carbone. Nous, sur Reporter, on a plusieurs dispositifs qui permettent d'avoir une empreinte relativement faible, donc je ne vais pas le développer là. Pour revenir à la question de fond, nous par exemple, on a décidé de quitter X, qui est animé par qui appartient au milliardaire fasciste Elon Musk.
Nous aussi d'ailleurs.
Mais on l'a fait parce qu'on était dans un mouvement collectif, et ça nous paraît important de faire des choses collectivement. Mais on est toujours sur Instagram, on est sur LinkedIn, on est sur Thread, on est sur Mastodon, on est sur Blue Sky, c'est-à-dire qu'on essaye aussi d'être sur des réseaux qui sont beaucoup plus indépendant des milliardaires. Après, nous, l'enjeu, c'est de toucher un grand public. Si Reporter, on touche 2 millions de visiteurs tous les mois, voilà, on veut toucher le grand public, mais peu à peu gagner
et amener les gens. Sauf qu'on entendait l'auditrice tout à l'heure, éthiquement parlant, est-ce qu'il faut rester quand on a un média écolo sur ces réseaux?
Pour l'instant, oui, et faire un travail tenace, long. Déjà, on raconte pas de la daube, si vous me permettez ce terme, sur les réseaux sociaux, mais on raconte de l'information sérieuse et on y travaille. On est aussi sur les réseaux alternatifs. On développe les lettres d'information. On développe les sites, et derrière, ça pose la vraie question. De la même manière qu'il faut se réapproprier les médias, il faudrait faire un travail en commun pour se réapproprier des sites, des réseaux sociaux autonomes et indépendants.
Merci beaucoup Hervé Kempf, merci pour vos messages, merci à Valérie Ayestaral qui réalisait cette émission, Anna Massardier pour le dossier, Juliette Petit à la technique.